Merci, Armel.
Bien, alors, je précise d'entrée que je vais m'en tenir à des propos essentiellement introductifs. Je ne vais pas examiner le fond de la doctrine qu'expose Georges Burdeau dans ses articles, même si j'y ferai des allusions, parce que c'est une tâche considérable et qui exigerait plus de temps que celui dont je dispose. C'est une tâche aussi qui va être entamée par d'autres personnes après moi. Donc là, je voudrais essentiellement parler du livre, de ce qu'il contient, de la manière dont je l'ai conçu, de ce que l'on peut en attendre et de ce que l'on ne doit pas en attendre. Et ceci m'amène, et je m'en excuse, à commencer par parler de moi, parce que je voudrais dire en quelques mots, très brièvement, quelles ont été mes relations avec Georges Burdeau. Je crois que ça peut utilement éclairer ce que je dirai ensuite et la portée de ce dont je peux témoigner et aussi les limites de mon témoignage. J'ai connu Georges Burdeau en tant qu'étudiant en 1972. Auparavant, je l'avais croisé mais comme un étudiant de première année, un professeur illustre. Et c'est seulement en 1972 que je l'ai connu à l'occasion d'un mémoire que j'avais commis sur le département de la Corrèze, que je connais bien par ailleurs, et qui est d'ailleurs sorti dans une collection de l'Université de Paris 2 avec une préface de Georges Burdeau. C'est à cette occasion donc, que j'ai fait sa connaissance et comme le poste d'assistant qui était occupé par Francis Hamon, ici présent, s'est trouvé libre au début de l'année 1973 par voie d'agrégation, Georges Burdeau, qui m'avait remarqué à cette occasion, a demandé, parce que j'avais été recruté comme assistant à l'Université de Paris 2, que je vienne travailler avec lui. Et donc j'ai travaillé avec lui comme son assistant, du début 73 à 1977, époque où il a pris sa retraite. Et donc là, je l'ai beaucoup vu, nous avons beaucoup parlé. J'avais avec lui des relations assez fortes, de grande confiance, et on peut même dire d'amitié, dans les limites qu'impliquaient les différences d'âge et de statut. Je l'ai beaucoup entendu, puisque j'assistais à ses cours, j'étais à côté de lui, j'opinais du chef, quelquefois je tentais de dire des choses intelligentes, mais c'était difficile à côté de lui, parce qu'en général, il les avait déjà dites. Je l'ai donc beaucoup entendu, et j'ai beaucoup parlé avec lui, mais c'était des échanges intellectuels, c'est-à-dire qu'il n'abordait pas des questions plus personnelles, et le texte auquel a fait allusion Armel de Divelec, tout à l'heure, le texte de 1983, qui est une espèce d'esquisse autobiographique extrêmement intéressante, m'a appris sur lui des choses que je ne savais pas, auxquelles il n'avait jamais fait allusion, parce que, comme il est de bon ton dans ce genre de situation, il paraît fort peu lui-même. Donc, ce dont je peux témoigner, c'est de son activité d'enseignement et aussi de sa pensée, parce que, encore une fois, j'ai eu avec lui des échanges extrêmement consistants et libres. Ce n'était pas quelqu'un qui utilisait la langue de bois, et chose plus rare encore, il ne l'exigeait pas de ses interlocuteurs. C'est donc dans cette limite que je peux parler de lui. J'ajouterai, pour terminer sur ce point, que nous n'avons pas eu à proprement parler, et ceci est également important pour comprendre ma position, des rapports de maître à disciple. Parce que, d'abord, je crois qu'il n'avait pas une vocation de maître en ce sens-là. Il ne cherchait pas à se perpétuer lui-même à travers autrui. Et donc, il n'attendait pas de quelqu'un, d'un disciple, qu'il répète ce que lui-même avait dit. D'abord parce que c'était quelqu'un de très profondément libéral au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il admettait des divergences d'opinion, il n'exigeait pas que tout le monde pense comme lui, et aussi parce qu'il avait, je pense, un sentiment très fort de sa singularité. Bref, il n'attendait pas de moi, je crois qu'il n'a attendu de personne, qu'il soit une sorte de représentant de sa pensée sur Terre quand lui-même ne serait plus là. Et d'autre part, mais je ne développerai pas ce point, je n'avais pas non plus à proprement parler une âme de disciple. Donc, nos échanges ont été très libre, très approfondi, mais pas marqué par une sorte de dogmatisme du maître vis-à-vis de l'élève ou du disciple. Je tenais à le dire pour commencer. Bon, ceci étant posé, je voudrais maintenant vous exposer en quelques mots le sens, mais aussi, là aussi, les limites de l'entreprise qu'a constitué ce livre. Ce livre a été le fruit d'une initiative, d'une proposition de Charles Lebel et d'Olivier Beau, qui ont beaucoup compté pour, dans sa réalisation. C'est une tâche que j'ai acceptée d'emblée, parce que j'estimais d'une part que je pouvais la faire, aussi en un sens que je pouvais l'accomplir, donc je n'ai pas hésité du tout. Et c'est un travail qui s'est avéré plus important que je ne le pensais, pour un certain nombre d'autres de raisons que je n'avais pas anticipées, mais qui, ça ne signifie pas par là que je regrette de l'avoir fait, bien évidemment. Et notamment la difficulté de retrouver un certain nombre de textes, parce qu'on se heurte à un problème qui est que, au fond, l'œuvre de Burdeau, l'œuvre et la vie de Burdeau n'ont pas fait l'objet jusqu'ici de travaux universitaires d'ampleur. Si bien qu'on est un peu livré à une situation d'incertitude. Certes, il existait une bibliographie qui avait été faite, qui se trouve dans les mélanges dirigés par Francis Savant et Bernard Chambou, et dont que j'ai évidemment utilisé. Mais cette bibliographie s'arrête en 1977, donc elle ne va pas jusqu'au terme de la production de Georges Burdeau, alors que les articles que j'ai réunis vont de 1935 à 1983. Et donc j'ai dû chercher un certain nombre de textes, j'en ai retrouvé qui n'étaient mentionnés nulle part, mais je ne peux pas affirmer, parce que je n'ai pas fait le travail exhaustif de dépouillement et de recherche qui impliquerait une thèse sur l'œuvre de Burdeau, je ne peux pas garantir que je les ai absolument tous vus. Il reste peut-être des pépites à découvrir ici ou là. D'autre part, j'ai fait un choix, et comme tout choix, celui-ci est à la fois justifiable et arbitraire, mais je le justifierai en deux mots, sans dissimuler son caractère arbitraire. J'ai recueilli tout ce qui m'a paru important. J'ai laissé de côté des articles généralement brefs, de caractère, je dirais, conjoncturel, n'est-ce pas ? C'est-à-dire où il évoquait, dans un esprit journalistique, mais je ne veux pas dire par là de manière journalistique, je veux dire dans l'optique qui est celle de journalistes qui s'intéressent à l'actualité indépendamment de ce qui précède et de ce qui suit, il évoquait un certain nombre de faits contemporains, ou bien il répondait à des enquêtes, on lui demandait des pronostics sur l'évolution de la Ve République, par exemple, et bon, ce qu'il disait était intéressant, mais à mon avis, pourrait nourrir une réflexion sur sa pensée aussi sur les aléas de la prévision politique, mais n'avait pas un intérêt doctrinal suffisant pour être recueilli. J'ai également écarté les articles de l'Encyclopédia Universalis, qui ont été la grande entreprise de la fin de sa vie, parce que d'une part, ils sont relativement faciles à trouver, et que d'autre part, ce sont des synthèses à l'intention d'un grand public, cultivé certes, mais d'un grand public tout de même, et où il me semble qu'il redit des choses qu'il a abondamment dites ailleurs, donc il m'a semblé qu'il n'était pas indispensable dans un ouvrage déjà considérable de les reprendre. En revanche, j'ai reproduit côte à côte certains articles qui sont des variations sur un thème, où une partie importante du premier est reprise dans le second, notamment les articles sur le pouvoir d'État dans la Constitution de 1958, parce que là, il m'a semblé, à l'inverse, qu'il était intéressant de voir, à quelques temps d'intervalle et avec un sujet un petit peu décalé, comment il évoluait, y compris dans le court terme, sur les thèmes en question. Donc j'ai cru utile de reproduire ces deux textes pour qu'on puisse les comparer et voir ce qu'ils avaient en commun et aussi ce qui les distinguait. Au-delà de ces considération et de choix. Je pense qu'il était utile de réunir ces articles pour des raisons que Carmel Didelec a déjà évoquées et qui sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est que Georges Murdoch a été un auteur et un professeur très connu. Il a joui, à l'époque où il était en activité, d'une grande célébrité. Célébrité que je pense évidemment tout à fait justifiée. Et puis ensuite, il a subi ce qu'on appelait, quand le concept de littérature avait encore un sens, un purgatoire. C'est-à-dire qu'on n'en a plus parlé, plus beaucoup parlé, ou par allusion, par référence, à des œuvres qu'on n'avait généralement pas lues. Ici, il faut évoquer d'un mot le problème qu'a posé à la mémoire de Georges Murdoch l'existence de son traité. Son traité a été à la fois un handicap et un avantage et un handicap par rapport à la postérité. Je veux dire que le traité est encore assez souvent cité. On en parle, on l'évoque au moins comme un monument. Bon, monumental, d'ailleurs, le mot a été repris par Armel Didelec. Et lorsqu'on parle du monument que constitue le traité de sciences politiques de Georges Murdoch, je me demande toujours si on le prend au sens moderne ou si on le prend au sens antique de tombeau. Il y a un peu des deux. Parce que, au fond, c'est un monument célèbre, certes, mais c'est un monument peu visible. Et on apprend d'ailleurs, en lisant son texte autobiographique de 1983, que lui-même le jugeait anachronique. C'est lui-même qui utilise le terme. Alors, il y a peut-être une légère part de coquetterie dans cette formule, mais je crois que ça ne se réduit pas à ça. Je pense que Georges Murdoch était conscient du fait qu'il s'était lancé dans une entreprise qui paraissait étrange dès le moment où il la faisait, et a fortiori au siècle suivant. Étrange par son caractère considérable, 10 volumes, à qui on est encore capable de lire 10 volumes, alors que la plupart de nos étudiants s'effondrent lorsqu'on leur propose de lire 25 pages. 10 volumes, c'est évidemment très lourd. Anachronique peut-être aussi dans son caractère encyclopédique et systématique. Aujourd'hui, lorsque l'on demande à des auteurs de faire un traité de sciences politiques, on le découpe en morceaux, chacun a une tranches de saucisson à traiter, et ça, je pense que c'était vraiment des tranches de saucisson des autres. Donc il y avait chez Murdoch, j'y reviendrai tout à l'heure en terminant, une volonté de systématisme, une volonté de proposer une théorie complète qui embrassait tous les aspects d'une matière extrêmement large, puisqu'elle incluait sans véritable division, ce qu'on entend en gros aujourd'hui par science politique et ce qu'on entend en gros aujourd'hui par droit constitutionnel. La réalité est plus complexe, mais j'en ai parlé dans la préface et je me permets de vous y renvoyer. Donc, cette matière immense, il voulait l'embrasser d'un point de vue unique, qui était le sien, et d'un point de vue systématique. Et évidemment, ceci paraît décalé par rapport à la conception scientifique actuelle. L'ouvrage est très long, je crois que j'ai jamais rencontré personne qui ait prétendu le lire d'un bout à l'autre. Et il est en outre parfois un peu touffu, parce que, en raison de son mode de fabrication, Georges Murdoch ajoutait toujours et n'enlevait jamais. C'était une chose qui était vraie d'Esmain. Si vous regardez les diverses édition d'Esmain, vous constatez qu'il ajoute des développements, mais il ne supprime rien. Et Murdoch était de cette école, de ce temps, où les œuvres s'accroissaient, et s'accroissaient beaucoup, exponentiellement, parce que, tout simplement, il y avait des strates qui s'ajoutaient les unes aux autres. Et dans le grossissement du traité de Murdoch, qui pèse de 3 à 10 tomes, et à 11 tomes finalement, il y a quelque chose, un processus qui fait que la pensée quelquefois il est moins lisible, tout simplement parce qu'elle s'entoure de trop de retours sur elle-même, etc. Ajouter toujours, n'enlever jamais, c'est peut se révéler à la longue dangereux. Par rapport à cela, je pense que les articles apportent une espèce d'antidote, n'est-ce pas ? Parce que eux sont brefs et ils sont aussi premiers. Je veux dire par là que lorsque Georges Burdeau aborde un sujet nouveau, il en a abordé beaucoup, on peut le constater en voyant la diversité des sujets qu'il a traités, lorsqu'il abordait un sujet nouveau, il l'abordait sous la forme d'un article, qui ensuite remanié, relu, allongé, augmenté, corrigé, etc., allait se retrouver généralement dans ses livres et dans son travail. Avec l'article, on a le premier jet. Et ceci permet d'accéder à un stade antérieur de sa pensée où celle-ci est plus libre, plus jaillissante. Armel a repris le mot que j'avais utilisé dans ma préface. Et donc, elle est à la fois plus assimilable pour un esprit contemporain et en même temps, je pense, plus stimulante. C'est pourquoi il me semble que les articles donnent l'image d'un autre Burdeau qui est finalement, je ne dirais pas le vrai parce que ça ne se pose pas en ces termes, mais qui est celui qui peut le plus, me semble-t-il, séduire des lecteurs d'aujourd'hui. J'ajoute que un point très important, me semble-t-il, c'est que Georges Burdeau était un professeur pour lequel l'oral était sa manière naturelle d'exister. C'était un phénomène, l'entendre parler, je l'ai beaucoup entendu parler, comme je le disais tout à l'heure, l'entendre parler était une expérience très intéressante parce que ça n'était pas un orateur au sens classique. Il ne faisait pas d'effet de manche, il ne programmait pas, comme faisait Vedel, une plaisanterie après 25 minutes de cours pour détendre l'atmosphère. Il revenait ponctuellement à la 25e minute. Les étudiants regardaient leur montre en faisant 24 minutes, la plaisanterie arrivant. Alors, il n'avait pas du tout recours à ce genre de méthode, mais il avait un don extraordinaire et dont il parle lui-même avec une sorte d'étonnement, toujours dans le texte autobiographique déjà abondamment cité. Il avait un art extraordinaire de capter l'attention de l'auditoire. Il parlait relativement bas, en faisant des phrases assez longues, assez compliquées, et dès qu'il ouvrait la bouche, l'auditoire se taisait et l'écoutait avec une espèce de fascination. C'était un phénomène très étonnant et difficilement explicable. C'est pour ça que je parle de don, et je répète, il en était lui-même étonné. Il avait un art de la communication, pas au sens des visuels contemporains, mais au sens plein et fort du terme, qui était exceptionnel. Et il avait ce, pour lui, enseigner, c'était parler. Ça n'était pas écrire, ça n'était pas faire des livres, il le faisait aussi, et il a énormément écrit. C'est un homme qui a passé sa vie à écrire. Donc il ne refusait pas d'écrire pour des raisons dogmatiques, mais on sentait bien que c'était dans l'exercice de la parole qu'il était vraiment, lui, c'était son ministère, si je puis dire, n'est-ce pas ? Et le charme de sa parole, de cela je peux témoigner, le charme de sa parole ne se retrouvait pas toujours dans ses écrits. Certes, il écrivait très bien, de façon correcte et souvent élégante, mais il y avait dans son écriture quelque chose qui ne parvenait pas à se hisser au niveau du charme, de la puissance de sa parole directe, de sa parole vivante. Mais là aussi, au niveau des articles, on retrouve beaucoup plus que dans des textes plus travaillés, plus relus, plus corrigés, et recorrigés, et surcorrigés, on retrouve davantage, me semble-t-il, enfin, ainsi je le ressens, évidemment, les gens qui ne l'ont pas entendu ne peuvent pas en juger, donc vous devrez me croire sur parole, mais il me semble que dans ces écrits, bref, on retrouve quelque chose de la qualité de son expression orale. Donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'il était utile de remettre sous les yeux d'un nouveau public l'ensemble de ces textes. Alors, pour terminer, je voudrais quand même évoquer un peu le fond, mais de façon très succincte, en disant d'abord que ces textes, j'y ai déjà fait allusion, recouvrent un laps de temps très grand, n'est-ce pas, de 1935 à 1983. Les sujets sont d'autre part très divers. Les genres littéraires le sont aussi. Il y a des articles, genre de ce qu'on appelait autrefois articles d'agrégatifs, articles pour la RVP ou pour les archives de philosophie du droit, qui sont des articles universitaires du modèle le plus classique, même si le contenu n'a rien d'académique. C'est un premier type. Il y a des textes de mélange, qui, comme chacun sait, sont l'équivalent de ce qu'on appelle en matière esthétique le style de dessus de porte, c'est-à-dire des endroits où le fresquiste se laisse un peu aller à des fantaisies diverses. Il y a aussi des articles pour la revue Critique qui sont particulièrement intéressants parce que, conformément à la méthode de cette revue, ce sont à la fois des recensions d'ouvrages et des essais sur le thème des ouvrages. Bref, une grande variété, y compris des choses inattendues. Je vous laisse découvrir, par exemple, le texte qui s'appelle « Sur un enseignement impossible » et qui est tout à fait étonnant. Donc, une grande variété de textes. Également, le fait qu'il y a, malgré cette variété, des thèmes dominants. Il y a des cycles. Il y a, par exemple, un cycle de la loi. Pourquoi la loi était-elle une chose et pourquoi est-elle aujourd'hui autre chose? Il y a un cycle de la démocratie qui est personnellement peut-être ma tâche le plus. Un cycle de la démocratie. Que signifie le terme démocratie? Quels sont les changements du terme démocratie? Il y a aussi un cycle de l'exécutif. Armel de Divelec l'a dit tout à l'heure. Et une réflexion sur les fonctions de l'État et une remise en cause qui me paraît d'une très grande richesse des théories classiques et dogmatiques de la séparation des pouvoirs. Il y a également des textes de science politique, mais d'une science politique qui était ce qu'il entendait et qui est assez différent, évidemment, de ce que l'on entend par là, mais je ne vais pas me lancer dans une discussion sur cette question, ce serait manifestement trop long. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que ce qui me semble le plus riche de substance, plus intéressant dans l'œuvre de Jean Burdeau, c'est la conscience très vive qu'il avait du changement, des changements impliqués par les passages du temps. Parce qu'il a une expérience qui s'est étendue sur trois républiques, parce qu'il a vu un monde évidemment bouleversé et renouvelé en profondeur à tous égards. Il avait, se semble-t-il, un sens très fort, et plus fort que celui qu'ont généralement les juristes, du fait que les choses changent sans changer. C'est-à-dire que les mots restent les mêmes, les concepts restent les mêmes, les institutions restent parfois les mêmes, et pourtant tout change. Et de ce point de vue-là, une chose qui me paraît à la fois très importante en elle-même révélatrice, emblématique, comme on dit aujourd'hui, de sa pensée, c'est la distinction qu'il établit entre ce qu'il appelle la démocratie gouvernante et la démocratie gouvernée. Je n'aime pas, je le dirai en passant, énormément cette terminologie, parce que je pense que, enfin, je ne partage pas l'usage qu'il fait du terme démocratie. Mais en revanche, ce que je trouve proprement génial, je risque le mot, c'est d'avoir su montrer comment, sous la Troisième République et sous la Quatrième, le système politique a complètement changé, les relations politiques ont complètement changé, le contenu psychologique des relations entre gouvernants et gouvernés a complètement changé, sans que les institutions politiques changent. Et ce décalage entre la manière dont les institutions fonctionnent, dont la politique fonctionne, dont le gouvernement est vécu tant par les gouvernants que par les gouvernés, alors que les institutions restent identiques, ceci me paraît être l'apport le plus durable et qui mériterait d'être abondamment creusé aujourd'hui de la pensée de George Gordon. Et vous voyez qu'ici, la forme touche le fond, puisque, au fond, ce qui l'a intéressé, ce qui l'a retenu, et ce qui s'est perdu en raison de l'évolution des disciplines, c'est ce qui se trouve au carrefour, ou au carrefour de la science politique et du droit constitutionnel. Burdeau a toujours voulu rester un constitutionnaliste et un juriste, et il l'a toujours fait en répétant une chose qui paraît très étrange aujourd'hui, mais qui est très profonde, en disant « c'est par réalisme que je reste constitutionnaliste. C'est par réalisme que je continue à être juriste, car le droit existe. » C'est-à-dire que c'est exactement le contraire de ce que nous disent les politologues au sens sociologique du terme aujourd'hui. Le droit existe, le droit est une donnée du réel. Mais, naturellement, il n'épuise pas le réel. Et donc, ce qu'il essayait de faire, c'était de comprendre l'articulation entre le droit et les fonctionnements réels, pratiques de la politique. Ça me paraît une matière d'une très grande richesse, et je regrette qu'aujourd'hui, elle soit largement, sinon abandonnée, du moins minimisée, parce que la science politique et le droit constitutionnel ont évolué chacun dans des sens divergents, laissant entre eux une sorte de trou. C'est dans cet espace, que Georges Burdeau occupait, je crois, génialement. Et je pense que l'intérêt de son œuvre est justement de nous montrer qu'il faudrait revenir à une réflexion sur ces questions au-delà des clivages contemporains.
Merci, cher Jean-Marie, pour ces belles paroles très stimulantes. Nous allons peut-être d'abord entendre les autres intervenants et puis réagir les uns les autres avec la salle.